franceinter.fr.
À quel âge naissent les stéréotypes de genre et comment une étude américaine qui vient de paraître tente de répondre à cette question, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Non, je préférerais plutôt être réalisateur.
J'hésite un peu entre maîtresse ou vétérinaire.
Sage-femme. J'ai des petits bébés et on les soigne. Un métier de fille.
Et pour commenter cette étude, Éric Fassin est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Éric Fassin, vous êtes sociologue spécialiste de la question du genre, professeur à l'École normale supérieure, et vous êtes donc là pour commenter ce travail de trois psychologues américains publié cette semaine. Ils suggèrent que c'est au moment de l'entrée à l'école, justement, que s'installent les préjugés tenaces entre les carrières féminines et masculines, préjugés qui influencent, on va le voir, le choix des jeunes filles ou des jeunes garçons. Éric Fassin, expliquez-nous d'abord comment ont procédé ces trois psychologues pour en arriver à cette conclusion.
Eh bien, ce sont des enquêtes d'abord auprès d'enfants, et ce sont des enfants dont on a essayé de mesurer les réponses à travers un ensemble de tests qui ressemblent un peu à des jeux, mais à des âges différents, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Et c'est ce qui permet de vérifier combien le fait d'associer l'intelligence plus volontiers aux garçons qu'aux filles, aux hommes qu'aux femmes, que ce soit chez les filles ou que ce soit chez les garçons, eh bien c'est quelque chose qui va intervenir petit à petit, ou plutôt soudainement, quelque part entre 5 ans et 7 ans, c'est-à-dire, en gros, à l'âge où on entre à l'école.
C'est la seule explication quand on dit c'est entre 5 et 7 ans, on pense tout de suite à l'école, mais est-ce qu'on peut en trouver une autre ?
Il y a une explication qui n'est pas simplement les stéréotypes que peut éventuellement propager l'école, mais il y a aussi autre chose, c'est la question qui est posée, qui est celle de l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire ces capacités intellectuelles qui vont être mesurées, qui vont être évaluées, c'est précisément de ça que parle l'école. Donc, en un sens, ce qui est intéressant, c'est de voir que le moment où on entre à l'école, c'est le moment où on commence à prendre pleinement au sérieux l'importance sociale de l'intelligence, et c'est à ce moment-là que vient se greffer là-dessus une représentation genrée, c'est-à-dire différenciée selon les garçons et les filles, qui associe plus d'intelligence aux garçons qu'aux filles.
Alors, Éric Fassin, justement,
elle introduit une valeur.
Alors, ils ont raconté justement, les scientifiques, une histoire aux enfants autour d'un personnage intelligent, pour qu'on comprenne bien comment ils ont mené l'étude.
Voilà, c'est une manière, en fait, évidemment, puisqu'on n'est pas en train de poser des questions d'une complexité extrême à les enfants, on le fait à travers des récits, à travers des images, donc on essaie d'avoir des réponses extrêmement concrètes, c'est-à-dire à parier éventuellement des qualités et à des personnes telles qu'elles sont représentées dans ces histoires. Donc c'est ce travail-là de mettre en relation les choses qui permet de voir les stéréotypes implicites, mais qui sont déjà présents à cet âge-là, qui se mettent en place à cet âge-là.
Ils ont fait la même chose avec une autre qualité qui est la gentillesse. Ils ont raconté l'histoire d'un personnage gentil et ensuite ils ont demandé aux enfants de choisir parmi deux photos, un homme et une femme, quel était le personnage dont on venait de raconter l'histoire. Et là, pour le coup, on choisit plutôt un personnage féminin quand on parle de gentillesse. Donc, c'est pas en lien simplement avec l'intelligence.
Ce qui est frappant, c'est que, en fait, on n'est pas surpris. On pourrait presque d'avance prédire, avant même l'étude, que les garçons vont être associés davantage à l'intelligence et les filles à la gentillesse. Comment ça se fait qu'on est capable de le faire ? Eh bien précisément parce que on a non pas les causes, mais les conséquences de cette expérience. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais on sait bien le résultat. Et le résultat, c'est que petit à petit, les filles, elles vont s'orienter en fonction de ces stéréotypes et les garçons aussi. Autrement dit, il y a des conséquences sociales qui sont bien sûr redoublées par des pratiques quotidiennes qui peuvent être celles des profs, qui peuvent être celles des parents, qui sont celles de la société tout entière. Tout le monde comprend bien qu'il y a des rôles différents assignés aux garçons et aux filles. Donc on voit les conséquences, et ces conséquences, eh bien, c'est ça qui finalement devient la cause, c'est-à-dire c'est ça qui permet de comprendre pourquoi les enfants si jeunes ont déjà compris comment ça marche, c'est-à-dire ont déjà compris le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ont réussi à reprendre à leur compte des stéréotypes qui sont des stéréotypes adultes.
Mais alors pourquoi à 5 ans, l'enfant va choisir naturellement une image qui correspond à son propre sexe ?
Eh bien, parce que le genre, ça n'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est quelque chose qui va s'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail social pour faire en sorte que nous finissions par épouser une vision du monde qui est fondée sur cette représentation inégalitaire. Donc dans un premier temps, ça n'est pas naturellement en quelque sorte qu'on se représenterait que les garçons sont ceci et les filles sont cela. Il va falloir l'apprendre. Donc spontanément, eh bien, les garçons, une fois qu'ils ont compris qu'il y a une différence entre les garçons et les filles, de même que les filles comprennent qu'il y a une différence entre les garçons et les filles, ils vont s'identifier d'abord à leur sexe. Ce qui bascule, c'est qu'on va pouvoir ensuite comprendre que cette différence, elle est hiérarchique. Et cette hiérarchie, eh bien, c'est celle qui institue ce qu'on peut appeler le genre.
Et comment on lutte alors contre ces stéréotypes à l'école au tout début? Est-ce qu'on peut essayer de cibler des domaines particuliers? Je ne sais pas, la grammaire, les manuels scolaires?
On a un exemple intéressant, c'est qu'il y a eu en France ces dernières années des tentatives, en particulier autour de ce qu'on a appelé les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire une volonté de toucher aux stéréotypes de genre. Et c'est précisément ça qui, vous vous en souvenez, a soulevé une levée de boucliers. Alors, pourquoi y a-t-il une telle hostilité? Parce qu'on me dit, bien sûr, on est contre l'égalité, on est pour l'égalité, pardon, mais on est contre ce qu'on appelle, de manière tout à fait impropre, la théorie du genre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je veux bien de l'égalité, mais je veux pas du genre. Or, c'est le genre qui va instituer l'inégalité. On ne peut pas comprendre comment une société qui revendique systématiquement l'égalité finit par être aussi inégalitaire en matière sexuelle. On ne peut pas le comprendre si on ne passe pas par ces représentations. Mmh. Et ces représentations, c'est pas seulement des images, c'est pas seulement des discours, mais ça vient se concrétiser, ça vient se cristalliser dans des tas de pratiques sociales et dans des institutions, y compris dans les manuels scolaires.
Mmh. Richard Herlin, évidemment, je vais vous faire réagir parce que l'égalité des mots, c'est important. La féminisation, d'ailleurs, des mots, hein, vous en parlez aussi.
Ah oui, tout à fait, oui. Et là je suis très content d'entendre ça parce que ça conforte ce dont on parle. Il y a un chapitre consacré au féminin, le mauvais genre féminin, parce que notamment on entend cette petite fille à qui on demande ce qu'elle voudrait faire plus tard et qui dit « je voudrais être maîtresse ou vétérinaire ».
Ouais.
Alors on a deux mots, on a maîtresse qui est un féminin, puis on a vétérinaire qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un mot épicène, c'est-à-dire on peut dire un ou une vétérinaire. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment par exemple l'Académie française s'est élevée contre la féminisation des noms de professions, etc.
Ouais.
Alors maîtresse, par exemple, ça passe parce que cette petite fille, on imagine qu'elle parle de la maîtresse qu'elle a en référence, c'est-à-dire une institutrice.
Mmh.
En revanche, dès lors, par exemple, qu'on va écrire maîtresse de conférence, certains disent « Ah, on peut dire une maîtresse de conférence
ouais. ?»
Alors, il y a dans ce suffixe « S », comme ça, il y a quelque chose de diminutif, d'un peu péjoratif. Et donc, on renacle. Et de la même façon, alors c'est là où la question... Parce que on parle de théorie du genre, il y a un genre grammatical prétendu neutre, et dont on nous dit, bon, il correspond au masculin français, l'abbé Bourse disait que c'était ce masculin qui l'emportait sur le féminin parce que c'est le genre noble.
Ouais.
Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, que peut-être pour la construction du genre, il faut autoriser les petites filles à penser qu'on peut devenir, par exemple, directrice.
Ou autrice. Autrice pour auteur.
Hein. Autrice ouais. ou chercheuse.
Absolument.
Et voilà, et c'est là que le langage est important.
Axel, dernière question très
oui,
vite.
Peut-être un mot de la cohorte de cette enquête. 400 enfants au total, majoritairement blancs, issus des classes moyennes américaines. On peut vraiment conclure une fois qu'on a une population de 400 enfants seulement?
Éric Fassin.
La question est peut-être moins de la taille de l'échantillon, mais plutôt de sa composition. Parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, il s'agit d'enfants de classe moyenne blanche. On peut se poser la question, est-ce que la valorisation des capacités d'intelligence est la même dans tous les milieux sociaux? Est-ce qu'elle est la même selon qu'on parle des blancs et des noirs aujourd'hui aux États-Unis? C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui vont instituer le genre et qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Après tout, se faire traiter d'un télo dans une cour de récréation, c'est-à-dire être accusé d'être intelligent, ça peut exister aussi, et on peut renvoyer l'intelligence du côté des gens efféminés. Donc l'essentiel n'est pas, à mon sens, la qualité elle-même, mais le fait que de toute façon, on va mobiliser ces qualités dans un ordre hiérarchique qui est celui du genre.
Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, Éric Fassin, spécialiste donc des questions du genre à l'occasion de cette étude parue cette semaine. Et merci beaucoup, Axel.
À lundi, bon week-end,
reposez-vous. Allez. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'Union européenne qui devrait tenir ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Parmi les objectifs énergie-climat que l'Union s'était fixé en 2008, celui d'atteindre 20% d'énergie renouvelable dans sa consommation consommation finale en 2020, eh bien ça devrait être accompli. La part des énergies renouvelables dans notre consommation étant estimée à 16,4% en 2015. Cependant, il faut noter de fortes disparités. La Suède et la Lettonie font figure de modèle avec respectivement 54 et 39%. Et la France, elle, est à la traîne avec 14%, soit 2 points de moins que son objectif. Le soft rock et le reggae qui apaisent les chiens, c'est un constat tiré d'une étude à paraître dans le prochain numéro de Physiologie et Behavior. Des chercheurs de l'université de Glasgow ont exposé une quarantaine de chiens à 5 styles de musique différents. Ils ont alors observé qu'ils passent plus de temps couchés et que le nombre d'aboiements diminue durant ces périodes de diffusion. De plus, l'observation de leur fréquence cardiaque indique une diminution du stress, en particulier en écoutant donc du reggae et du soft rock. Du coup, la SPA écossaise a décidé de placer des enceintes dans tous ses refuges. Et puis Greenpeace publie les premières photos d'un récif de corail méconnu découvert l'année dernière au large de l'Amérique du Sud, un récif corallien de 9500 km² qui s'étend sur plus de 1000 km du Brésil à la Guyane française. Contrairement aux autres récifs qui prospèrent dans les eaux salées et laissant passer la lumière, ceux-ci sont situés à l'embouchure du fleuve Amazon qui charrie une eau douce et boueuse. Et vous retrouverez ces photos sur la page Facebook de La Tête au Carré.